RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
En 2024, le Rwanda commémore l'un des massacres les plus sanglants du XXe siècle. Mais comment les habitants peuvent-ils vivre avec la mémoire de ce génocide qui aurait fait entre 800 000 et 1 million de morts? Et puis comment se reconstruire en tant que Rwandais? On va prendre le temps d'en discuter ce matin avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, l'une des manières de faire mémoire, c'est aussi de retranscrire les récits et l'histoire grâce à l'art, que ce soit la littérature, la peinture ou le théâtre. C'est ce que vous entendrez à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. De quelle manière vous sentez-vous concerné par ce qui s'est passé au Rwanda il y a 30 ans? Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est possible? Est-ce que le risque d'un génocide vous semble-t-il toujours possible également? Et puis si vous êtes Rwandais, bien sûr vous avez la parole, comment abordez-vous cette question avec vos proches? On vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou alors dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Et je suis très heureux d'être de retour parmi vous pour cette émission Je pense donc j'agis. Et j'ai également le plaisir d'être avec Madeleine Vatel ce matin. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, 30 ans se sont écoulés depuis le début du massacre des Tutsis du Rwanda en Afrique. C'est l'heure du bilan pour ceux qui vivent ensemble dans un pays après ces horreurs et notamment toute une génération qui n'a pas directement connu le génocide. Des enfants ont grandi orphelins ou avec des parents, pour les uns rescapés, pour les autres bourreaux. En tout cas, beaucoup se taisent. Alors comment faire face au silence? Comment apprendre le génocide si ce n'est par ses proches ou au moins à l'école? Et puis pour ceux qui ont vécu, vu, entendu le génocide, comment vivre avec ce traumatisme? Eh bien, ce matin, nous allons entendre ceux qui vivent sur place. Ils nous diront s'ils pensent qu'une réconciliation est vraiment possible, de façon durable, de façon profonde. Et puis, pendant 3 mois, eh bien, au Rwanda, comme en France, des commémorations vont permettre de faire mémoire. Ce temps, il est particulier. Il est pour nous aussi l'occasion de mieux comprendre comment un tel génocide a pu avoir lieu. Et puis, comment agir pour empêcher que d'autres ne puissent avoir lieu. Et au fond, c'est la question du mal qui est posée à chacun. Nous, voilà ce qui nous attend ce matin, Melchior.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, Madeleine, on a le plaisir d'accueillir plusieurs invités.
Ce matin, avec nous, Assumpta Mugi Ranedza. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Avec nous, voilà, depuis Kigali, la capitale du Rwanda. Vous êtes rwandaise et française, psychologue sociale et politologue. Vous avez collaboré pendant 10 ans au travail cinématographique d'Anne Aguillon sur les tribunaux dans les villages, les gachachas. On va en reparler durant cette émission au Rwanda après le génocide. Vous avez également travaillé sur les discours de la haine, sur l'enseignement de l'histoire et la prévention des génocides. Et vous êtes actuellement au Rwanda où vous avez créé le centre Iriba pour le patrimoine multimédia. Vous proposez des archives audiovisuelles qui sont accessibles à tous. Merci d'être avec nous depuis Kigali au Rwanda. Avec nous également Cathy Leblanc. Bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes professeur de philosophie, vous enseignez à l'Institut catholique de Lille. Vos thèmes de recherche, eh bien, ce sont justement la barbarie, la déshumanisation. Vous avez notamment organisé une journée d'études intitulée « Réparation, réconciliation, quelle justice après le génocide des Tutsis au Rwanda ?» Merci à Jean et au studio de Lille qui vous accueille. Et puis avec nous également Espérance Paturo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la cellule locale de l'association Ibuka. Ibuka, ça veut dire « souviens-toi ». C'est une association qui lutte pour la mémoire, la justice, l'aide aux rescapés, la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme, mais aussi pour l'éducation, pour la transmission. Voilà, vous avez vous-même perdu une grande partie de votre famille lors du génocide. Merci d'être avec nous. Également en ligne, Félix Bigabo. Bonjour. Vous êtes avec nous au Rwanda et on reviendra avec vous au cours de l'émission parce que vous menez une initiative justement à Kigali. On reviendra avec vous pour en parler. Mmh. Merci à Nicolas Fournel en tout cas qui est oui. Sur ce matin la liaison avec nos invités. On a une grande distance ce matin mais c'est ça qui rend l'émission passionnante, c'est d'avoir justement nos invités qui sont en direct du Rwanda.
Voilà, exactement. Et puis, je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour participer à cette émission, pour réagir au 04 72 38 20 23. Et comme vous l'avez dit, Madeleine, dans cette émission, on va prendre le temps de se replonger un peu 30 ans en arrière.
30 ans en arrière, oui. Et puis, pour comprendre, eh bien, parce qu'on n'a jamais fini de comprendre, ou plutôt de ne pas comprendre le génocide qui a été perpétré au Rwanda contre les Tutsis. J'aimerais comprendre, pour chacun d'entre vous, pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux, quel est le lien que vous avez personnellement, ou en tout cas dans votre vie aussi aujourd'hui, avec le génocide rwandais. Je vous pose la question, Assumpta Mugiraneza, quel lien vous avez, vous, aujourd'hui, avec le génocide? Quel a été le lien pour vous avec le génocide?
Bonjour, c'est une question pas du tout évidente, hein, parce que quand on dit génocide, on a touché ce qui fait le lien entre l'humanité. C'est le crime contre l'humanité le plus absolu, qui a causé beaucoup de problèmes à ceux qui essayaient de définir cette manière nouvelle de chercher à exterminer l'entièreté d'un groupe. Donc, comme membre de l'humanité, je suis absolument concernée. Je suis aussi concernée parce que je suis rwandaise. Que je suis rwandaise et que j'étais là, que j'avais mes 27 ans et que je n'ai pu rien faire. Je ne pouvais rien, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question sur pourquoi ma génération a pu en arriver là. C'est quoi le rôle de ma génération? C'est quoi nos échecs? C'est par quelle voie de déperdition nous sommes-nous retrouvés avec un génocide au cœur de notre cité? Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à parler de moi-même et de ma famille que j'ai perdue, et je préfère rester un peu en dehors de cela. Mais voilà, je fais partie des victimes, mais en même temps, moi, je vivais en France. Je n'ai pas expérimenté le génocide directement. Et j'aimerais pouvoir parler comme quelqu'un qui porte d'abord la responsabilité d'une génération, comme quelqu'un qui a choisi non pas de m'engager seulement, mais d'abord de tenter de comprendre, parce que la maison qui m'a accueillie dès la fin 94, c'était le Centre de documentation juive contemporaine, qui est devenu le mémorial de la Shoah de Paris après. Et je m'y étais réfugiée pour tenter de comprendre qu'est-ce qui venait de se passer chez moi, avec mon peuple que je connaissais, que j'ai connu pendant les 21 ans de ma vie que j'avais passé au Rwanda.
On entend toute la complexité et puis effectivement la difficulté à saisir ce qui nous dépasse, ce qui reste incompréhensible pour beaucoup. Espérance Paturo, vous entendiez le témoignage d'Assumpta. Vous-même, qu'est-ce qui vous relie au génocide d'une manière personnelle ou professionnelle aujourd'hui?
Et merci pour votre question. Et avant de démarrer ma réponse, je voudrais vous apporter une petite rectification. Et on ne dit pas le génocide rwandais, on dit le génocide des Tutsis. Ouais. Le génocide commis contre les Tutsis du Rwanda.
Perpétré contre les Tutsis, tout à fait, oui.
Voilà. Et si ce sont les Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais, mais le groupe qui était visé était celui qui était... ce n'était que les Tutsis qui devaient être exterminés. Même si on reconnaît très bien qu'il y a des personnes de l'ethnie Hutu qui ont été tuées à la même occasion, soit parce qu'ils s'opposaient au génocide, soit parce qu'ils avaient des idées politiques qui étaient opposées à ceux qui commettaient le génocide. Voilà.
C'est important de redire que ce génocide, est perpétré contre une ethnie, contre un groupe, et donc effectivement, on appelle génocide parce que c'est perpétré contre précisément les Tutsis au Rwanda. C'est important de le préciser en effet, et on y reviendra avec Cathy Leblanc tout à l'heure. On vous écoute, Espérance, sur ce qui vous effectivement vous raccroche, vous rattache à ce génocide.
Voilà, ce qui me rattache au génocide, c'est que moi, personnellement et heureusement, je vivais à l'étranger. Et j'ai assisté à la mort, à la mise à mort de ma famille, qui, elle, était restée au Rwanda, toute, et pendant toute la durée du génocide. Et donc, la grande partie de ma famille, c'est-à-dire la famille proche, mes parents, mes frères et sœurs, ont été tués pendant le génocide des Tutsis. Et étant humain, au bout d'une dizaine d'années, de la décennie, je me suis posé la question, comment vivent les rescapés? Après la création, justement, de notre association Ibuka France, et la présidente de l'époque, qui s'appelle aussi, c'est le hasard, Espérance Brossard, m'a confié une mission d'aller voir comment vivaient les rescapés, ceux qui venaient de survivre. Donc, de là a commencé des actions concrètes pour essayer d'aider des rescapés sur place, au Rwanda. Nous faisons ça depuis 20 ans. Et quand je dis « nous », ce sont les membres d'Ibuka qui habitent dans le Mont Targua et qui sont membres de la petite cellule locale dont je suis la présidente. Mmh. Et il y avait sur place tellement de problèmes des rescapés, que ce soit des très jeunes. Il faut savoir que ce génocide n'a pas emporté que des gens. Ils ont aussi, il a aussi effacé tous les souvenirs. Il n'y avait plus de maison, rien du tout. Donc les enfants se sont retrouvés dans la rue, les orphelins du génocide contre les Tutsis. Et il a fallu aider certains, on ne pouvait pas tout faire. Mais depuis donc 2004, nous faisons des actions concrètes pour aider les rescapés au Rwanda, les veuves comme les orphelins. Et côté France, nous avons agi en faisant des interventions dans des écoles pour l'éducation, pour la transmission de la mémoire, et aussi tous les volets que vous avez cités, la justice. La mémoire, la lutte contre le négationnisme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où les personnes imaginent le génocide, ils imaginent en même temps comment ils vont le nier. Tout part en même temps. Voilà.
Donc, au moment où ils imaginent le génocide, ils imaginent comment ils vont le nier. On y reviendra. C'est intéressant ce que vous dites, Espérance Patureau. Félix est avec nous également. Félix Bigabo. Vous êtes également à Kigali, au Rwanda. Vous êtes chargé des programmes de prison Fellowship Rwanda. Et l'une de vos missions, eh bien, c'est la réconciliation pratique, la réintégration des anciens prisonniers dans leur communauté. Vous travaillez véritablement à promouvoir une justice réparatrice. On va y revenir. Je vous repose aussi cette même question, Félix Bigabo. Quel est votre lien, vous, au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda?
Merci. Moi, je m'appelle Félix. Je travaille au sein de Prison Fellowship Rwanda, qui est une organisation chrétienne qui œuvre dans le domaine de la réconciliation depuis 1994. Juste après le génocide, nous avons commencé à travailler avec les bourreaux, ceux qui ont commis le génocide, qui étaient incarcérés dans les différentes prisons du Rwanda. Bien sûr, c'était dans le but de les approcher et de les amener à participer dans les dialogues de guérison et réconciliation. Et c'était aussi dans le but de découvrir la vérité sur les crimes qui ont été commis. Mmh. Quand nous parlons
et vous, Félix, on va revenir sur votre action parce qu'elle est très importante et je dois reconnaître qu'elle est aussi assez étonnante. Simplement pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, pour que nos auditeurs sachent qui parle, dites-nous quel est votre lien avec le génocide perpétré contre les Tutsis en Rwanda.
Ok, merci. Comme je viens de le mentionner, je travaille au sein de cette organisation qui est une organisation chrétienne, Prison Fair Ship Rwanda. Le lien ce que je suis chargé de programme et le lien ce que personnellement je suis un Rwandais comme les autres. J'ai été affecté par ce qui s'est passé depuis 2008. J'ai rejoint cette organisation pour pouvoir contribuer à la guérison sociale de tous les Rwandais.
Vous étiez au Rwanda en 1994?
Non, j'étais exilé en République démocratique du Congo. Je suis revenu au Rwanda juste une année après le génocide. Mmh. Et comme la société était détruite et nous avions des amis, des familles qui ont été décimées au Rwanda. C'est à ce moment-là que moi aussi j'ai été touché et je me suis dit que je devrais rejoindre les autres pour pouvoir aider à guérir les blessures du traumatisme et du génocide.
Merci beaucoup, Félix Bigabo. À Lille, c'est Cathy Leblanc, professeur de philosophie, qui est avec nous aussi. Cathy Leblanc, vous, c'est un objet de recherche pour vous, ce génocide des Tutsis au Rwanda. Vous diriez que il est encore aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui tout un pan de recherche à explorer, que c'est un sujet qui rejoint hein, ceux que vous traitez habituellement. Dans quelle mesure il vous touche particulièrement, Cathy Leblanc?
Alors bonjour, et je salue nos amis rwandais aussi, que je connais bien. D'abord, un pan de recherche, ça me gêne un petit peu de parler en termes d'objets de recherche. Je pense que quand on travaille sur la déshumanisation, sur la barbarie, c'est d'abord un engagement. Un engagement humain et puis un engagement qui est commun à l'Université catholique de Lille avec des valeurs. On essaie de comprendre ce qui se passe, comment un génocide est possible. C'est la question qu'a posée Espérance, c'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce que c'est possible? En Irlande, on s'est posé, vous savez, il y a un très très beau film, Le Vent se lève, où on voit bien que des frères peuvent s'opposer les uns aux autres et s'entre-déchirer, se tuer, et peut y avoir des génocides, des tueries familiales également. Donc comment en arrive-t-on là? C'est la grande question de toutes mes recherches qu'elles portent sur le Rwanda, et c'est un génocide qui est tout frais. Moi, je travaille en particulier avec les anciens déportés de la Seconde Guerre mondiale. Il en reste quelques-uns. Je reviens là de Weimar et de Buchenwald, et nous étions aux commémorations du 79e anniversaire. Je fais partie du comité international Buchenwald-Dora. Le serment de Buchenwald vise à lutter contre toute forme de barbarie, donc le génocide rwandais nous concerne aussi, nous engage, et bien sûr il y a encore énormément de choses à découvrir. Vous savez, on découvre encore des choses 79 ans après la Seconde Guerre mondiale, et donc il y aura encore pendant peut-être une centaine d'années des choses à découvrir, et puis une interrogation qui doit porter aussi sur la toute grande origine de ces génocides. Et je travaille actuellement sur la question de la colonisation, puisque le Rwanda a d'abord été colonisé par les Allemands, au moment même où il y avait un génocide des Herero et des Nama. C'était les conférences de Berlin avaient donné l'Afrique de l'Ouest et puis aux Allemands. Et au même moment, au Rwanda, il commence à y avoir des divisions. On a confié l'administration aux Tutsis, on les a opposés aux Hutus. Donc il y a une histoire très très longue, et ça, on n'est qu'au début, pour comprendre toute cette longue histoire. Le génocide, ça peut avoir des racines il y a 100 ans. Hein.
Dites-nous, Cathy Leblanc, justement, la définition d'un génocide, quand on est historien, quand on est philosophe, on travaille aussi, c'est important de qualifier ce oui. dont on parle. Le génocide, qu'est-ce qui le qualifie ?
Alors c'est une question qui se pose actuellement hein, parce que on essaie de comprendre aussi ce qui se passe bien sûr en Ukraine, ce qui se passe à Gaza. Vous savez qu'on a parlé de génocide aussi à Gaza. Le génocide nécessite donc c'est un terme qui a été créé par Raphaël Lemkin en 1943. C'est un terme qui précède le terme de crime contre l'humanité qui a été un mobile formulé au tribunal de Nuremberg dont le but était aussi de comprendre comment on en vient là. Mais pour le génocide, pour qu'on reconnaisse un génocide, il faut qu'il y ait un plan concerté de destruction d'un groupe humain ou d'une communauté. Il faut un plan concerté. Donc aujourd'hui, on se demande par exemple, est-ce qu'il y a un plan concerté pour anéantir les Ukrainiens ? Est-ce qu'il y a un plan concerté pour anéantir les gens de Gaza ? Est-ce que, voilà, ce sont des questions qui se posent. Les frontières sont poreuses. Ce qui fait toute la difficulté de la définition, mais c'est le plan concerté qui retient toute l'attention des juristes.
Assumpta, pour expliquer à nos auditeurs, j'allais dire en résumé, même si c'est très difficile, mais ce génocide rwandais perpétré contre les Tutsis au Rwanda, si vous deviez le raconter ou en tout cas en dire quelques mots pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ce matin, même si les médias en ont beaucoup parlé avec les commémorations qui ont lieu justement pour marquer ces 30 ans. Comment est-ce que vous le feriez, Assumpta ?
Merci encore une fois. C'est toujours, et ça le restera, il y a une dimension indicible, mais comme le fait de rester nous oblige à essayer à tout faire pour rendre cet objet intelligible, je vais m'y essayer. Tout simplement, c'est un plan donc arrêté par le pouvoir rwandais de l'époque qui tirait sa légitimité dans un mythe planté depuis la colonisation comme quoi il y avait au Rwanda trois races, la race pygmoïde, la race bantou et la race nilotique, amétique. C'était des délires d'une époque où même en Europe, les théories raciales étaient censées être scientifiques. Au-delà d'avoir trois races, il y avait cette idée, encore une fois, qu'ils viendraient de différentes régions et que de l'autre côté, on a tout de suite mis un conflit entre la deuxième couche qui était supposée être le groupe bantou et la troisième couche qui était supposée être amétique, nilotique. C'est trop compliqué, vous m'excuserez. On oubliait les pygmées et on prenait les Hutus qu'on disait majoritaires appartenant au groupe bantou et on les opposait aux Tutsis qui étaient supposés être amétiques. C'est un délire d'une époque révolue, Dieu merci. Mmh. Mais le pouvoir dit majoritaire, sauf que les idées étaient minoritaires, va à un pouvoir à la sortie de l'indépendance, de la colonisation vers l'indépendance, ce mythe d'un peuple majoritaire asservi par une minorité arrivée plus tard, va servir de légitimation politique. Et c'est comme ça que durant 40-50 ans, on va vivre avec cette idée qu'il y a eu une révolution, que les Hutus seraient légitimes et que les Tutsis seraient des gens qu'on supporterait. Après quelques vagues de massacres sur la durée entre 59 et 90, il y aura une guerre menée par des descendants d'exilés qui voulaient exiger le retour dans leur pays. Et le pouvoir en place, imagine, pas tout le monde, je suppose, mais il va y avoir cette idée qu'on devrait les massacrer tous pour que la question ne se pose plus. Alors, le chef de l'armée va définir un ennemi clairement dans une réunion du haut commandement en disant l'ennemi, c'est le Tutsi intérieur qui veut toujours dominer et l'ennemi, c'est le Tutsi extérieur qui vit dans l'idée de se venger. Très vite, donc 2 mois après cette attaque, le journal extrémiste Kangura va édicter 10 commandements, un peu comme les 10 commandements de la Bible, va édicter 10 commandements de ce qu'on va appeler Hutu Power. C'est quoi le Hutu Power? Ça veut dire le nouveau Hutu très extrémiste dont la principale caractéristique est le fait de ne pas supporter le Tutsi, de ne plus vouloir vivre avec le Tutsi. Il va y avoir la mobilisation des médias, il va y avoir la mobilisation des milices, il va y avoir tout un travail qui fera qu'au bout du compte, au bout de 3 ans, et puis bien sûr, il va y avoir, désolée de le dire, d'abord l'indifférence parfaite du reste du monde.
Et on va continuer d'en parler dans un instant parce qu'il faut qu'on marque une petite pause dans Je pense. Donc Jaji, on a encore beaucoup de choses à dire hein, sur le génocide du Rwanda. C'était il y a 30 ans ce matin. On essaie de voir comment les habitants peuvent vivre avec la mémoire de ce génocide. Et vous avez la parole pour en discuter au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et ce matin, dans Je pense, donc j'agis, vous l'entendez, on parle du génocide des Tutsis au Rwanda avec nos invités et bien sûr avec vos témoignages. De quelle manière vous sentez-vous concerné par ce qu'il s'est passé au Rwanda il y a 30 ans? Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est possible ou le risque d'un génocide, est-ce que c'est toujours possible? Et si vous êtes Rwandais, comment abordez-vous la question avec vos proches? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Un peu de musique tout de suite et de circonstances. Voici Gaël Faye.
Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh, terminé de tout et pour une fois. Kitoko na yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée, je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais te dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nako kovanda kinyate, mokili ebongi yeba. Bolingo yanga na yo, sukaseliwa. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanille. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanille. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. Histoire.
histoire d'amour. C'était le chanteur Gaël Faye pour vous accompagner ce matin. Gaël Faye, très concerné par le génocide des Tutsis au Rwanda, qui n'hésite pas d'ailleurs à mettre des mots dans ses paroles, dans ses chansons.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on continue cette émission, Madeleine, avec nos auditeurs au 04 72 38 20 23 et bien sûr avec nos invités.
Oui, on va s'arrêter notamment sur la question de la réconciliation parce que c'est aussi l'objet des commémorations. Et puis, on s'interroge sur est-ce que c'est possible, après 1 million de morts d'un génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, est-ce que c'est possible vraiment de vivre ensemble? Alors, je vous donne la parole, Félix Bigabo, parce que je voudrais que vous nous parliez de ce quartier créé en 2004, un quartier surprenant, parti d'une situation assez simple, coupable ou victimes. Après 1994, beaucoup se sont retrouvés sans maison, en tout cas notamment chez les victimes. Alors comment faire à la suite de ça, comment faire quand ces personnes sortent de prison aussi? Enfin, c'est la question de comment vivre, continuer à vivre là où on a grandi. Félix, qu'est-ce que vous avez participé à construire?
Merci beaucoup. L'organisation Prison Search pour Rwanda depuis 1995, comme je l'ai mentionné, est allée en prison pour pouvoir rencontrer avec les bourreaux. Juste une année après le génocide, on avait 120 000 prisonniers qui étaient suspectés pour avoir commis un génocide. On les a approchés et on les a mobilisés pour pouvoir sortir de leur isolement, de leur déni et pour pouvoir participer au dialogue de réconciliation au niveau des prisons. Ceux qui ont accepté, ils ont participé et comme c'est une organisation chrétienne, nous avons utilisé différentes méthodes, y compris la résilience spirituelle. Pour pouvoir les amener et à restaurer les relations verticales avec Dieu et aussi à restaurer la relation verticale avec les autres. Ceux qui ont accepté à participer dans ce dialogue, la plupart d'entre eux, ils ont été relâchés depuis 2003 suite au décret présidentiel qui accordait un pardon provisoire à tous ceux qui avaient dire la vérité des crimes qu'ils ont commis. Depuis 2003, on a commencé les mêmes programmes au niveau communautaire. Comme la plupart d'entre eux étaient relâchés et rejoignaient leur famille ou leur communauté, ce n'était pas facile de pouvoir cohabiter avec les rescapés du génocide. On a commencé un programme large au niveau communautaire, un programme de réconciliation qui réunissait ensemble les prisonniers relâchés et les membres des familles des rescapés à travers ce long processus de dialogue, de guérison et réconciliation. Ce n'était pas facile. Il fallait d'abord faire une sorte de médiation d'abord pour préparer les familles de rescapés à pouvoir accepter, à recevoir et dialoguer avec les gens qui avaient tué les membres de leur famille. De l'autre côté, il fallait aussi préparer les génocidaires parce qu'ils avaient encore, à ce moment-là, ils souffraient beaucoup de craintes et de honte associées à ce qu'ils ont commis. À travers ce long processus de dialogue communautaire de réconciliation, ceux qui ont passé dans ce dialogue, la plupart d'entre eux, ils étaient sans abri, y compris les rescapés et même ceux qui sortaient de prison. Nous avons commencé l'idée de construire ce que nous appelons le village de réconciliation. Pour le moment, nous avons 8 villages de réconciliation à travers le pays dans lesquels vivent les familles de rescapés du génocide, et les familles des prisonniers qui ont commis le génocide, mais qui ont été relâchés. Dans ces villages, bien sûr, non seulement ce village a donné les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins de base, mais aussi un village de réconciliation pour le moment, qui est considéré comme un modèle de réconciliation, non seulement au niveau national, mais au niveau international, parce que nous recevons beaucoup de visiteurs qui viennent de l'extérieur pour pouvoir attendre le témoignage de la part des habitants de ce village.
Voilà, c'est un village où une maison dans laquelle vit une victime alterne avec une maison dans laquelle vit un tueur, un qui ont purgé leur peine. Mais voilà, ça alterne d'une maison à l'autre. Il y a des mariages également dans ces villages. Alors c'est très surprenant. C'est même parfois on peut douter de cette réconciliation. Et pourtant, quand on entend les interviews, force est de constater que il est évoqué cette réconciliation et ce pardon. Espérance, j'aimerais qu'on vous entende. Qu'est-ce qui reste difficile dans une réconciliation? Est-ce que on peut dire que là, on va jusqu'au bout avec cette expérience de village? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Je vous remercie. Je voudrais vous lire un petit extrait qui se trouve dans un livre d'un rescapé. Et ce livre s'appelle « Témoin à nu ». Il est de Charles Wouter. Alors il dit…
On vous écoute, allez-y.
Le rescapé, c'est quelqu'un qui vit avec les plaies qui saignent de l'intérieur. Il a souvent les yeux mouillés par des larmes internes. Et quand elle s'extériorise, il les utilise pour imbiber sa souffrance qu'il transforme en tolérance. Il doit accepter, tolérer, supporter et même passer l'éponge quelquefois pour ne pas rester en marge de la société. Dans la société rwandaise, c'est très bien ce que fait Félix Bougabo et son équipe. Il faut que chacun apporte sa contribution. Mais est-ce que les rescapés ont le choix? Ils sont obligés de vivre dans une société. Si il y a des personnes qui peuvent les aider à y arriver, à y accéder, à l'accepter facilement, c'est tant mieux. Mais ce que je peux rappeler comme quelqu'un qui est né au Rwanda avant que tous ces événements n'aient lieu, en 1959, il y a eu des tueries des Tutsis, déjà, et au lendemain des tueries, les Rwandais, Hutus, Tutsis, toi, ils ont continué à vivre ensemble. Et le Rwanda est habité de façon à ce que, de toute façon, on habite toujours ensemble. Tous les Rwandais ont toujours habité ensemble. Et ces villages, c'est très bien, mais ils reproduisent déjà ce qui existe au Rwanda.
Et vous voulez dire de manière presque naturelle.
Après les tueries, le génocide, on habite à un endroit, ce sont les voisins qui ont tué d'autres voisins, ils sont sur le même territoire, on parle la même langue, on va à la même église, à la messe, et c'est, en fait, ce modèle, c'est tout le Rwanda est ce modèle-là.
Assumpta Mugiranetza, vous, pardon, oui.
Oui, et vous venez de parler de mariage. On se marie par amour, pas pour se réconcilier ou pour une toute autre raison. Qu'il y ait des personnes qui se marient dans ce village, les enfants des bourreaux et les enfants des victimes, ça arrive dans tout le Rwanda. Parce que on se marie parce qu'on s'aime et on a été privé d'éducation. On ne va pas priver les gens d'aimer qui ils veulent. Ça peut choquer, mais on n'y peut rien, c'est la vie.
Assumpta Mugiranetza, quel regard vous portez-vous justement sur la réconciliation? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui, au contraire, nous porte inévitablement à la réconciliation aussi, comme une nécessité pour pouvoir vivre?
Bon, merci pour votre question. Je vais juste demander quelques minutes. Je ne serai pas longue, mais je n'aimerais pas être coupée dans mon élan explicatif comme tout à l'heure.
Bien sûr, on vous écoute.
Donc, tout à l'heure, quand on a commencé à parler, je disais l'importance de prendre du recul, l'importance de garder la mesure de cette chose, de ce côté inaccessible presque à l'esprit humain que constitue un génocide, le projet d'extermination. J'ai aimé le fait que Cathy Leblanc a parlé d'engagement. On ne peut pas travailler sur ces sujets sans qu'il y ait de l'engagement. J'ai envie d'insister sur deux choses là. Quand on s'attaque à ce qui concerne le génocide, au minimum, il faut avoir une très grande humilité. Au risque de se retrouver dans l'imposture, parler automatiquement de la réconciliation après un génocide. Dans un génocide, il n'y a pas deux parties opposées, mes amis. Dans un génocide, il y a des victimes innocentes d'un crime qu'ils n'ont pas commis, parce que personne n'a jamais demandé de naître arménien, juif, tutsi ou du mauvais côté du Cambodge. Ça, j'aimerais qu'on le garde. Maintenant, une fois que le crime est consommé, on cherche toujours des réponses qui n'existaient pas avant, qui n'auraient jamais été pensées en amont. Et parmi les réponses qu'il y avait au Rwanda, c'était une non-réponse. Il n'y a qu'un seul Rwanda. Un Rwanda partagé par les bourreaux, les victimes, ceux qui étaient en exil et qui s'étaient battus pour pouvoir rentrer, et même ceux qui ont regardé sans pouvoir intervenir, et souvent les enfants nés des mariages entre Hutu et Tutsi. Donc vivre ensemble, c'est révélé comme une solution qui n'en était pas une, mais qu'il fallait rendre possible. Mon ami va m'excuser, ce n'est pas Prison Fellowship qui va décider qu'on va vivre ensemble. Il ne faudrait pas. Ce serait difficile d'interroger le Rwanda si des choses qui ont été pensées par le gouvernement rwandais et sont mises au bien des milliers, des centaines d'ONG qui étaient au Rwanda, les Nations Unies même, à la tête d'une seule ONG. Et donc, la manière de présenter les villages de réconciliation, moi, m'a paru plus schématique. Excusez-moi de parler comme ça. Ça fait spectaculaire. Mais heureusement qu'au Rwanda, il n'y a pas que 8 villages dans lesquels les gens vivent ensemble. Plutôt que d'isoler la réconciliation, il faut se demander comment les gens ont pu vivre ensemble. D'abord parce qu'il y a eu une victoire nette du Front patriotique rwandais qui était contre le génocide et qu'en arrêtant le génocide avec une victoire nette, a dit on va se risquer à essayer un gouvernement qu'on a appelé d'unité en intégrant d'autres composantes de la société rwandaise, qu'il y a eu la volonté de dire stop à toute forme de discrimination. J'aimerais que tous les adultes rwandais qui sont en ligne ou ceux qui vous écoutent, se souviennent de comment ça paraissait complètement ubuesque d'oser dire qu'on allait devoir lâcher nos cartes d'identité où il y avait la mention « Hutu, toi ou Tutsi ». Il a fallu aussi dire « Écoutez, vous allez tous vivre ensemble, vous ne pouvez pas sanctionner vous-même, on va en même temps juger, commémorer, parler d'unité, parler de réconciliation, qu'importe si on ne comprenait pas, il y avait une force qui nous poussait à cela ». Et je pense que si ça a été possible, et c'est ce que peut-être Espérance essayait de dire, c'est qu'au fait, malgré le génocide, les Rwandais étaient un peuple uni, un peuple qui parle la même langue, qui croit en la qui a la même foi, même avant la foi chrétienne, nous croyons tous en Imana, qui se reconnaissait un même roi, qui se reconnaissait une même armée, qui a tout en commun et qui habitait même de la même manière, répartis sur toutes les collines du Rwanda. Et que peut-être ce long temps passé ensemble, sans conjuguer la discrimination, recèle quelque chose qui nous permet de vivre ensemble. Mais ce serait une horreur de prétendre que ça se fait juste parce qu'on a prié ou parce qu'on a dit. C'est un ensemble de facteurs, d'efforts fournis au quotidien. Et la réconciliation, il ne faut pas la regarder seulement en termes de bourreau et victime. C'est aussi une réconciliation avec cette terre. C'est aussi une réconciliation entre celui qui a survécu et celui qui l'a sauvé, mais qui n'est pas mort. C'est la réconciliation même à l'intérieur de nos familles. Oui. Et nous trois qui intervenons, nous avons eu la chance de ne pas être au Rwanda. Et lorsque nous sommes revenus voir, moi je suis revenue en septembre 1994, il y avait quelques membres de ma famille qui avaient échappé au massacre au Rwanda. On n'arrivait pas à se parler, on se regardait, on s'embrassait, on ne savait pas parler. Donc, il y a tous ces niveaux, le niveau macro de la réconciliation, le niveau méso et le niveau micro, ce sont des éléments qu'il faut approcher avec courage, mais surtout avec humilité. On est sur une radio chrétienne, donc quand on parle de chrétienté, il faut vraiment garder la mesure. On est
courage et humilité. Courage et humilité. Absolument. Simplement, Félix Bigabo ne dit pas qu'il suffit que c'est magique la réconciliation. Hein. On sent que c'est quand même des années de dialogue avec les détenus. Je pense que c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Cathy Leblanc, qu'est-ce qui rend possible la réconciliation? On entendait Assumpta dire que c'est beaucoup d'éléments qui permettent à un moment donné d'arriver à ce que ça puisse se construire, la réconciliation. Qu'est-ce qui la rend possible, Cathy Leblanc?
Cathy Leblanc, qu'on n'entend plus depuis les studios de RCF à Lille. J'espère qu'on va la retrouver dans un instant. Ça me permet de vous rappeler que vous avez la parole au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Madeleine, on continue sans Cathy Leblanc. Elle est bien en studio, mais c'est juste la connexion qui a sauté.
Oui, on vous voit, Cathy Leblanc. On espère vous entendre. Espérance Pastureau, j'aimerais que vous nous disiez sur la question de la parole, le fait de pouvoir dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous aussi, en vous rendant au Rwanda, quelques mois après ce génocide? Qu'est-ce que vous avez entendu, vu? Est-ce que c'était si difficile de pouvoir justement évoquer ce qui venait de se passer? Est-ce que vous avez constaté ça aussi?
Ouais. Je dois dire d'abord, bonjour à Assumpta, que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de nous dire. Je me rappelle, moi, la première fois quand je suis retournée au Rwanda, c'était en 95. Eh bien, déjà, je me suis demandé où est-ce que j'allais loger. Chose que je n'avais jamais pensé me poser cette question. Et parce que la maison de mes parents était complètement détruite et qu'il ne me restait qu'un seul frère au Rwanda. J'étais l'aînée de 10 enfants. J'avais une sœur qui, heureusement, aussi était à l'étranger. Et des 8 frères et sœurs qui restaient au Rwanda étaient le seul qui avait survécu. Et même lui, il était marié, il avait une fillette de 3 ans. Un bébé qui allait avoir 3 mois et il n'avait plus rien, ni sa femme, ni ses enfants. C'était le seul qui avait survécu que j'ai pu voir. Plus tard, bien sûr, nous avons retrouvé 2 neveux, des enfants de notre frère. Et donc, j'arrive au Rwanda, il n'y a que mon frère. Et j'ai logé dans un hôtel, hein, Ouais. Chose bizarre, quand on dit « je rentre chez moi », d'habitude on disait « je rentre chez moi ». Et quand je revenais, les vacances étaient finies, je disais « je retourne chez moi aussi ». Parce que c'est chez moi au Rwanda et c'est chez moi aussi en France. Mais arrivé au Rwanda, ben c'était le choc. D'habitude, le Rwanda, que ce soit avant 94 ou maintenant, c'est un pays vraiment peuplé. Il n'y a pas d'endroit où on ne voit pas beaucoup de monde. Mais là, c'était vide. Il faut vous dire qu'il y avait quelques personnes qui avaient peut-être participé et au génocide, mais quand ils nous reconnaissaient, ils nous voyaient comme des revenants. Ils s'arrangeaient pour se cacher. Les autres, ils étaient morts, ou d'autres étaient partis. C'était le vide. Et l'herbe folle qui avait poussé à la place des maisons qui appartenaient aux Tutsis auparavant. Donc, c'est ça, on n'arrive pas à vraiment dire le génocide. Pour nous, c'est un trou noir, c'est le vide, c'est l'absence de toutes les personnes que nous avions aimées, qui nous attendaient. Donc, nous étions seuls. Et y compris les bourreaux n'étaient pas là à cette époque-là, parce qu'on aurait peut-être été tenté d'aller poser des questions. Mais il n'y avait personne. Alors les quelques personnes qu'on pouvait trouver, des survivants, ils étaient exactement dans le même état d'esprit que nous. Ils ne pouvaient pas parler pour dire l'indicible. Et en revanche, la décision a été prise là d'essayer de dire au monde ce qui nous était arrivé.
Cathy Leblanc, faire avec la solitude, faire avec le silence, ça c'est presque la première étape de la réconciliation, vous diriez ?
Alors, tout d'abord, il faut être très attentif sur le lieu des événements. En fait, on ne peut pas comprendre le génocide des Tutsis avec les catégories occidentales. Nous avons une rationalité qui nous est propre. Nous avons même une façon d'habiter l'espace qui nous est propre. Aujourd'hui, les voisins ne se disent plus forcément bonjour. On est là au Rwanda dans une situation complètement, complètement différente. Donc, il faut se projeter dans des rapports humains qui sont aussi différents pour pouvoir comprendre comment on peut remettre en œuvre ces rapports humains. Moi, j'ai grande foi en le Rwanda et aux Rwandais parce que ce sont des gens pour qui l'hospitalité constitue une valeur très importante, beaucoup plus que dans les pays occidentaux. L'hospitalité est une valeur. J'accueille l'autre, je me dois d'accueillir l'autre, la générosité. C'est cette générosité qui nous permet d'entendre aujourd'hui et de comprendre ce que disent Espérance, ce que dit Assunta ou Félix. Les gens sont prêts à accueillir les bourreaux et nous, occidentaux, nous sommes vraiment très surpris de cela. D'où la nécessité de faire intervenir l'interculturel. Donc, vivre avec, c'est aussi comprendre la culture de l'autre.
C'est une heure qui est passée très vite. Merci infiniment, Cathy Leblanc. Mais c'est vous qui terminez cette émission avec ces belles paroles qui sont effectivement le fruit aussi vous, de votre expérience. Merci. Vous êtes professeur de philosophie. Vous enseignez à l'Institut catholique de Lille. Et je rappelle vos termes de recherche la barbarie, la déshumanisation, avec prochainement un colloque aussi à Lille. Merci, Espérance Patureau, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes présidente de la cellule locale de l'association Ibuka, présente en France. Merci également à Assumpta Mugiranetza qui était avec nous depuis la capitale du Rwanda, Kigali. Vous travaillez, vous, au centre Iriba que vous avez créé, un centre de mémoire et des archives audiovisuelles. Merci aussi à Félix Bigabo qui est chargé des programmes de prison fellowship au Rwanda, à Kigali également. Merci beaucoup pour tout l'aspect technique à Nicolas Fournel.
Merci également à l'équipe de Lille qui vous accueillait ce matin. Cathy Leblanc Studio. Merci Madeleine Vatel, une mission très intéressante. On va continuer dans un instant, on va parler de la culture. Est-ce que la culture peut-elle permettre de raconter ? On va en parler, à tout de suite.